Sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Salam Ali, Baptiste Juhera, Oscar Couder et Nathan Weiman, ainsi que moi-même, Thierry Burnier, pour vous présenter 5 petites chroniques. La première sera une chronique sur le Moyen-Âge et les temps présents, la suivante sur la mondialisation, la suivante sur les préjugés, la suivante sur un journal datant du 19e siècle, et la dernière sera sur le tirage au sort.
Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Bienvenue à notre émission de radio. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps et explorer une époque où la qualité de la viande était une préoccupation majeure, le Moyen-Âge. Dans cet article, nous découvrirons une histoire intrigante d'un moulon appartenant à un monastère qui produisait une farine étrange pour nourrir les porcs. Cependant, la viande obtenue était de si mauvaise qualité qu'un scandale éclata parmi les consommateurs.
Chers auditeurs, savez-vous qu'il existe un lien entre le mystérieux moulin du Moyen-Âge et nos chers McDonald's ? Et oui, bien que cela puisse sembler étrange, il y a une similitude dans l'histoire. Tout comme le moulin produisait une farine étrange pour nourrir les porcs, nos chers fast-foods ont parfois été accusés de fournir une viande de qualité douteuse.
La question qui se pose maintenant, c'est de savoir quelle est cette mystérieuse farine douteuse de McDonald's.
Pour comprendre quelle est cette farine, il est temps de parler de l'élevage intensif. Un sujet qui peut parfois mettre les nerfs à vif, mais avec une petite dose d'humour, nous allons rendre ça plus digeste, si vous m'en permettez l'expression. Imaginez-vous dans un monde où les poulets se retrouvent à faire du step aérobique pour rester en forme. Les vaches portent des baskets de course pour atteindre leur objectif de lait quotidien, et les porcs se lancent dans des compétitions de natation pour garder la ligne. Et oui, dans l'élevage intensif, version McDonald's, les animaux ne connaissent pas la détente.
Et oui, chez Ronald, tout est question d'efficacité et de rapidité. Les poulets poussent à une vitesse folle, avec des muscles plus développés que certains bodybuilders. Les vaches subissent des séances de traite express, comme si elles étaient sur le circuit d'une Formule 1 du lait. Et les porcs ? Eh bien, ils sont élevés avec l'objectif ultime de devenir de délicieux morceaux de bacon croustillant, prêts à être engloutis dans un Mac Deluxe.
Donc la fameuse farine douteuse de McDonald's serait l'élevage intensif ?
Tout à fait. Dans cette quête d'efficacité qu'est l'élevage intensif, il est possible que la qualité de la viande en souffre. Certains élevages intensifs ont tendance à privilégier la quantité plutôt que la qualité, ce qui soulève des interrogations quant aux pratiques d'élevage et à la santé des animaux. Il est important de prendre conscience que ces enjeux de se questionner sur les méthodes de production utilisées.
Et saviez-vous qu'à l'époque médiévale, les riches avaient déjà compris l'importance de la qualité de la viande ? Et oui, ils préféraient se tourner vers des ressources locales pour s'assurer d'un festin délicieux et de grande qualité. Pas de commande à distance ni de livraison à l'express à l'époque, hein, non ça. Ils savaient que la proximité garantissait une viande fraîche et savoureuse. Une leçon que nous pourrions bien appliquer aujourd'hui dans notre ère, dans notre quête d'une viande de qualité.
Et oui, chers auditeurs, il semblerait que nous ayons des choses à apprendre du Moyen-Âge. Cette époque lointaine nous offre des leçons surprenantes, même en matière d'alimentation. Qui aurait cru que nos ancêtres médiévaux avaient déjà compris l'importance de privilégier la viande locale pour garantir une qualité irréprochable ?
Et voilà, nous voilà face à une triste réalité. Sans l'élevage intensif, McDonald's risque de se retrouver avec un tout nouveau slogan, Mac Salade.
Oh, ne soyons pas si pessimistes face à l'éventualité d'une fermeture de McDonald's. Au contraire, prenons cette situation comme une opportunité pour réfléchir à nos habitudes alimentaires. Plutôt que de se délecter de hamburgers à la chaîne, peut-être est-il temps d'adopter une approche plus locale et modérée en matière de viande.
Ainsi, chers auditeurs, plutôt que de pleurer la possible disparition de McDonald's, regardons vers l'avenir avec optimisme et délectation. Réduisons les dégâts de l'élevage intensif en privilégiant la viande locale et en adoptant une approche plus modérée dans notre consommation. Car après tout, qui a besoin d'un Big Mac quand on peut savourer un morceau de Pigs, The Three Different Ones de Pink Floyd, qui est non pas une métaphore de l'élevage intensif, mais plutôt de la société et ses dirigeants.
Oh, with the quick grill. You like the feel of steel. Your heart's not for the hat pin. A good thing with a hat gun. You're nearly alive. You're nearly alive, but you really will
Rejoignez-nous le cigare allumé pour cette nouvelle chronique où l'on souhaite vous éclairer sur des objets tels la pipe à opium, essayant ensemble de comprendre leur lien à la mondialisation.
Pour la pipe à opium par exemple, elle a tout de la pipe, mais avec un aspect plus allongé à l'image d'une flûte.
Mais comment est-elle devenue célèbre alors ?
Cette pipe, datant de 1750, est une vraie révolution à son époque car elle permet de consommer l'opium en fumée et pas sous forme de petites boulettes. C'était révolutionnaire dans la consommation de drogue à leur époque. C'est révolutionnaire car premièrement, on fume l'opium pur, puis après quelques temps, on commence à le mélanger à du tabac, ce qui est beaucoup moins dangereux que de manger l'opium. La source dit que, invention chinoise, la pipe à opium marque le degré le plus abouti, d'un point de vue technique, de l'âge pré-industriel des drogues opiacées. Ça montre que c'était la meilleure drogue à consommer à cette époque, et sans grand risque, et qu'elle était très en avance sur son temps.
D'accord, mais comment elle s'est mondialisée du coup ?
Aux alentours du XXe siècle, environ 7 millions de Chinois ont quitté leur pays pour vivre ailleurs, et ils ont emporté avec eux la pipe à opium, qui est devenue très populaire dans des pays comme la Malaisie ou encore la Thaïlande, où elle sera beaucoup consommée. Les pratiques chinoises se sont alors répandues dans d'autres pays.
Un autre objet qui a été mondialisé par le voyage est le cigare. C'est une spirale de feuilles de tabac dont on coupe le bout pour le consommer. Sa mondialisation a commencé grâce à la guerre dans les grandes lignes.
Donc la guerre aurait rendu le cigare populaire ?
En fait, les soldats qui avaient séjourné dans les régions où on le consommait pour honorer les dieux ou pour ses propriétés thérapeutiques ont essayé et ils y ont pris goût, pour ensuite en ramener avec eux et en faire la pub sous une dimension plus récréative. Comme la pipe à opium, ils ont voyagé avec les gens là où ils sont allés. Un autre objet du même calibre est le calumet. Comme pour le cigare, on le fumait pour ses bienfaits, mais en plus de ça, on lui trouve des sens qui diffèrent du cigare. Par exemple, il est en deux parties, une partie femme et une partie homme. La partie homme s'emboîte dans la partie femme comme pour représenter le coït. Pour utilisation, on prend soin de la conserver, séparée comme pour montrer que l'acte est fini.
Comme la clope après l'amour.
Non, rien à voir. Elle le représente seulement, elle n'est pas utilisée après le coït.
Le calumet est aussi un objet de croyance, il me semble.
Oui, comme nous dit l'article que j'ai sous les yeux, il constitue d'abord un outil de communication avec les entités non humaines. Les Amérindiens qui utilisent le calumet pensent que leurs rêves sont transmis aux cieux par la fumée. Ces derniers est aussi fumé par la paix entre deux tribus, par exemple. D'où le terme calumet, de la paix qui en découle. Il s'est mondialisé par les rencontres entre les Français et des Amérindiens qui ont partagé un calumet. Les Français ont ensuite décidé d'avoir eux-mêmes des calumets de la paix pour pouvoir faire des alliances avec différents peuples. Contrairement à la pipe à opium et au cigare, le calumet n'est pas, voire très peu, consommé en dehors de l'Amérique.
Comme on peut le voir, tous ces objets ont été mondialisés grâce à la diversité et au partage. Alors dans une génération comme la nôtre, où on ne s'occupe que de son nombril, pourquoi ne pas revenir à la base, le partage ?
Enfin, rejoignez-nous le cigare à la bouche, à écouter le remix par Richard Anthony, dans Grand Classique de Dave Brubeck, pour les amateurs en jazz Take 5.
Take a little time out with me. Just take five, just take five. Stop your busy day and take the time out to see. I'm alive, I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime, not a play. Still I know our eyes open meet. I feel tingles down to my feet when you smile.
gets much too discreet, sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? Can I give you a light? Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five, just take five. Only stop and take a little time out with me. Just take five, yeah, take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive, so alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime, not a play. Still I know our eyes are open me. I feel tingles down to my feet. When your smile gets much too discreet, send me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? Can I give you a light? Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five, just take five, just take five, just take five.
Bienvenue, chers audiospectateurs, sur le thème préjugés portés sur les obèses. Être gros, un cauchemar pour certains, et le saviez-vous, un rêve pour d'autres.
Alors, pour que ta phrase ait du sens, il faudra tout de même mentionner que le rêve n'est pas uniquement pour les anorexiques.
Voilà, tout à fait, car nous ne sommes pas là pour vous partager leur utilisation et leur signification, mais plutôt sur leur origine qui questionne historiens de tous les âges.
Exactement. Avec mes deux collègues, nous allons nous pencher sur les raisons d'être de ceci, les modalités et enfin s'ils ont toujours raison d'être dans notre ère où domine la critique sur le préjugé qui souhaite l'extinction de l'insulte.
Laissez-moi commencer par définir ce qu'est le préjugé porté sur les obèses, celui-ci étant que les gros, en règle générale, manquent de volonté face aux difficultés qu'ils rencontrent et manquent de volonté à les franchir en préférant donc accuser leur morphologie.
J'ai ici un article tout à fait important et je peux vous dire que les préjugés avaient une toute autre signification dans le Moyen-Âge où l'on considère les rondeurs comme attributs de pouvoir et d'influence. À cette période, la gourmandise, pour ceux qui peuvent se permettre, n'est que péché mineur. Mais il semble que ce regard a changé à un point dans l'histoire, mais je ne trouve plus à quel moment.
Permets-moi de t'assister. Le regard changea dès le moment où le monde de la santé s'est intéressé à l'impact du gras sur le corps. Cela au milieu du Moyen-Âge. Il est alors fortement conseillé de se faire des purges et viennent alors les corsets.
Mais alors, pouvez-vous m'expliquer comment les préjugés existent, même si les saignées sont pratiquées pour des raisons de santé personnelle plutôt que pour des raisons esthétiques visant à obtenir une apparence plus fine ?
Nous y venons, et je me suis retrouvé. L'obésité commence à perdre de son affiliation au pouvoir dès lors que la possibilité de la gloutonnerie se démocratise à peu près après la Renaissance. Dès lors, la corpulence joue un rôle crucial dans, par exemple, la démarche de trouver un travail, car les employeurs, sur des hypothèses bien fondées, jugent que les gros manqueraient d'efficacité à la tâche.
Je t'arrête là à dire que ces hypothèses sont bien fondées est absolument inadéquat et inactuel. Comment sais-tu pour un fait qu'il serait moins efficace que n'importe qui ? Ne nous sommes pas tous égaux ?
Semble-t-il que notre animateur soit tombé dans la désillusion de l'égalité absolue de tous. Mais passons pour le moment outre ce désarroi, car la vraie démocratisation de l'obésité se fait au XXe siècle. Elle se démocratise non pas chez les riches, mais aussi chez les pauvres.
Laissez-moi vous citer ton commentaire, qui est le même que celui dans ma revue. Ouvriers et paysans commencent à souffrir de gouttes d'obésité et de diabète dans les années 1930. Des maladies jusqu'alors aux riches aristocrates. C'est tout à fait frappant. Mais cela me fait tout d'un coup plus penser que l'obésité est plus un choix, ce qui donne une raison aux préjugés.
Continue à lire la page. Tu verras que le consensus scientifique de la santé ne partage pas forcément ton avis. En effet, si tu parles de pauvre, la définition même de ne pas posséder, il doit être au plus économe et il se trouve que le fast-food s'installe au milieu du XXe siècle. Soit que le choix n'est pas si simple et que le régime change pour des doses de calories ingérées par jour supérieures à la dépense énergétique moyenne.
Excusez-moi, je vous arrête. Même si cet échange a été très intéressant, mais nous arrivons à court de temps. Il est donc d'ordre de conclure et si je suis bien... On est à la moitié du XXe siècle et soit je peux moi-même intervenir avec pertinence. Aujourd'hui, il est couramment accepté que l'obésité n'est pas synonyme de paresse, mais trouble de l'alimentation, voire trouble psychique.
Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je vous donne raison sur certains points, ceci étant que la corpulence obèse n'est pas attractive. Certes, dans certaines cultures, on l'admire les rondeurs, mais dans le monde occidental, aujourd'hui cartésien, c'est un fait que l'attractivité est basée sur certains aspects de la santé. Et l'obésité n'en est pas un. Et pour revenir sur le commentaire provocateur, certes nous devons condamner ceux qui promouvaient le fait d'être obèse par des commentaires du type « tous les corps sont beaux » sans prendre en considération les risques de santé. Mais le fait de préjuger les personnes à corpulence XXL est de loin une ère passée.
Sur ce, on vous provoque avec la célèbre « Fat Bottom Girl » de Queen.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round.
Hey! I was just a skinny lad. Never knew no good from bad. But I knew life before I left my Left alone with big fat fatty. She was such a naughty natty. Hey big woman, you made a bad boy out of me. Hey, hey. I've been singing with my band. Cross the water, cross the lake. I've seen every blue-eyed floozy on the way. Hey.
Chers auditeurs, le moment est venu de nous pencher, mes camarades et moi-même, sur un journal de la fin du 19e siècle. Je vous propose donc que l'on discute en particulier du journal de la Côte d'Oignon, paru le mardi 28 février 1899. Pour commencer, chers amis, nous voulons vous partager notre surprise lors de notre première lecture du journal, et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Oscar, à toi la parole.
En effet, comme tu l'as dit, un journal du 19e siècle. Au début, je ne vais pas te mentir, je me suis dit « Mais quel fossile avons-nous là ?» Mais bien entendu, ce journal a de quoi surprendre. Il y a tellement de sujets, je ne sais même pas par où commencer. Aide-moi, Nathan.
Ah oui, pas de souci. Je me souviens de ce qu'on a remarqué en premier. Déjà, chère audience, imaginez-vous un journal imprimé à la presse en 4 pages, celle-ci divisée en plusieurs petites rubriques rectangulaires, comprenant donc l'actualité, des parutions, des recherches d'emploi, des faits divers et de la publicité.
Tout à fait. Une chose frappante du journal était déjà le nom de l'article suivant. Nécessité d'une réforme pratique et esthétique dans le costume féminin. Je ne peux même pas m'imaginer les nombreuses critiques que l'on recevait aujourd'hui pour un tel nom d'article, tellement les idéologies ont changé. Plus précisément, il parle de quoi cet article ?
Alors cet article fait référence à une conférence qui s'est tenue à Genève sur une réforme partie de Berlin. Cette réforme, elle veut des vêtements féminins plus confortables, parce que les habits, ils se veulent d'être conçus par des femmes, pour des femmes, et respectant les points de l'hygiène, de l'économie et de la beauté. Concernant l'hygiène, nous apprenons que le coton et la laine sont des récepteurs de saleté et de microbes. Chose vraiment surprenante pour les femmes qui ne voteront que 73 ans plus tard. Cette réforme constituait plus largement à discuter des droits et des désirs féminins.
Cette réforme avait déjà commencé il y a plus de 100 ans et apparemment en force pour pouvoir être citée en place prédominante dans le journal de la région. J'espère donc, pas pour le futur mais le passé, que ce mouvement a pu donner une voix aux femmes de l'époque. J'espère aussi vous avoir inspiré par le biais de ce journal à des nouvelles initiatives.
Une autre rubrique importante intitulée « Nouvelles de la côte » discute principalement de l'agriculture et nous montre la place importante qu'elle a dans cette époque. Je vois même un truc qui nous concerne, Oscar. Regarde le projet du chemin de fer.
Le projet du chemin de fer de Nyon-Jura ? Mais c'est incroyable ! Ça, c'est notre train, Terry. On le prend tous les jours.
Ne nous éloignons pas du thème, chers amis. N'oublions surtout pas de parler des dernières pages qui se portent sur de nombreux faits divers, ainsi que sur des recherches d'emploi et donc aussi sur des publicités. Ces pubs sont assez modestes comparées aux nouvelles sorties d'iPhone. Il y a aussi une rubrique météorologique ainsi qu'un bulletin financier qui parle des différents cours des actions. On apprend par exemple que le cours de l'action de la banque cantonale vaudoise est à 760 francs. Je prends une publicité au hasard. Les graines potagères et de fleurs de la maison Villemorin sont arrivées. Petits oignons, mastic à greffer, magasin Visinande.
Ça me donne envie d'aller pique-niquer. Et c'est donc sur cette note de petits oignons et de cornichons que vous avez les cornichons de Nino Ferrer.
Lyon.
Bonjour et bienvenue sur notre chronique radio sur l'histoire du tirage au sort en Italie. Aujourd'hui, à la suite de nos collègues qui ont discuté de la pratique très compliquée et démocratique du tirage au sort à Athènes, nous allons parler de deux villes italiennes aussi célèbres pour leurs utilisations du tirage au sort en politique, Venise et Florence. Commençons par Venise, où le processus de tirage au sort était très élaboré.
Élaboré peut-être, mais surtout très compliqué. Imaginez-vous les urnes remplies de noms des candidats pour chaque poste, avec des tirages au sort successifs pour sélectionner les membres des différents conseils et commissions.
Un vrai spectacle, en somme.
Les femmes nobles étaient souvent exclues du tirage au sort, car elles étaient considérées comme ayant suffisamment de pouvoir et d'influence politique sans avoir besoin d'être élues. Le tirage au sort à Venise était considéré comme un moyen d'empêcher les formations de factions politiques et de grandir l'impartialité des décisions prises par le Conseil et les commissions.
Mais ce spectacle n'est que poudre aux yeux, car effectivement, par la plupart du temps, c'était très souvent les membres d'une même famille qui restaient au pouvoir.
Toujours les mêmes au pouvoir, donc rien ne change.
Si, la beauté de ce système, c'est que la mise en place du tirage au sort permet, comme dit précédemment, d'éviter des conflits.
Passons maintenant à Florence, où le tirage au sort était utilisé pour sélectionner des membres du gouvernement et des conseils municipaux. Les candidats éligibles étaient sélectionnés par un conseil de nomination, puis leur nom était placé dans une urne pour être tiré au sort en public.
Encore une fois, pas de politique, mais du spectacle donc.
Si on fait l'analogie avec aujourd'hui, on peut presque dire que ce tirage au sort était médiatisé.
Ce tirage au sort, comme vous dites, médiatisé à Florence, était considéré comme un moyen de prévenir la corruption et l'influence des riches et des puissants sur la sélection des représentants politiques. Cependant, certains critiques ont fait valoir que le tirage au sort à Florence avait des inconvénients, car il pouvait conduire à la sélection de personnes incompétentes ou mal préparées pour occuper des postes gouvernementaux. C'est peut-être pour cette raison que le tirage au sort à Florence a été utilisé de manière limitée et a été replacé pour des élections indirectes à partir du XVIe siècle.
En tout cas, le tirage au sort était une méthode couramment utilisée pour sélectionner des représentants politiques en Italie au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et même aujourd'hui, le tirage au sort est parfois considéré comme une alternative à l'élection pour garantir une plus grande représentativité et une plus grande impartialité dans la sélection de nos dirigeants politiques.
Donc, si je comprends bien, le tirage au sort ne permet pas une chance égale à tous les participants, vu qu'à Venise, les mêmes familles se retrouvaient souvent au pouvoir. Et le tirage au sort, en soi, il a permis justement d'offrir une chance égale aux participants, bien qu'à Venise, il a été sûrement contourné pour permettre ainsi aux mêmes personnes de rester au pouvoir.
Et oui, effectivement. Par exemple, en Suisse, il y a peu, vous vous souvenez, nous avions dû voter pour savoir si on voulait que le jury soit tiré au sort.
La question du tirage au sort fait parler et continuera de faire parler vu les actualités. Sur ce, avec l'espoir d'être l'heureux élu d'une demoiselle, avec Get Lucky par Daft Punk, nous vous souhaitons une excellente journée en espérant de vous retrouver pour une prochaine chronique radio.
Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love.
gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Sur cette note musicale, bonsoir.
Sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon.